En Nouvelle-Calédonie, la crise sanitaire attise les tensions politiques. Par Hélène Salvi. Chronique. Premier territoire français à sortir du confinement, la Nouvelle-Calédonie a globalement été épargnée par la pandémie de Covid-19. Pourtant, la crise sanitaire a laissé des traces dans l'archipel du Pacifique, engagé depuis plus de 30 ans dans un processus de décolonisation. Des traces profondes, y compris sur le plan politique, comme l'attestent plusieurs élus d'Océanie, qui n'augurent rien de bon à quelques mois du deuxième référendum d'autodétermination. Initialement prévu le 6 septembre, cette nouvelle consultation a été reportée au 4 octobre dans le souci de garantir le caractère irréprochable de son organisation. Celle du premier scrutin référendaire, qui avait vu le non à l'indépendance l'emporter par 56,7% des suffrages exprimés le 4 novembre 2018, avait été saluée par toutes les forces politiques locales. L'État, statutairement en charge du déroulement des opérations, souhaite qu'il en soit de même pour le suivant. Or, à ce jour, un risque demeure sur l'encadrement des procédures de vote, a fait valoir Matignon dans un communiqué rendu public dans la nuit du 29 au 30 mai. Notre capacité à réunir 250 candidatures pour les observateurs nationaux et internationaux et à les acheminer en Nouvelle-Calédonie dans des délais compatibles avec les 3 semaines de quarantaine requises à ce jour n'est pas assurée. D'où cette décision de report qui a reçu un accueil mitigé dans les rangs indépendantistes. À l'issue d'une réunion de son comité directeur organisée samedi dernier, l'Union calédonienne, l'UC, a en effet indiqué qu'elle maintenait sa proposition de renvoyer la consultation au 25 octobre. Une date qui n'arrange pas les calculs de l'État, lequel souhaiterait conclure l'ensemble du processus régi par l'accord de Nouméa, dont le troisième référendum prévu en cas de nouveau refus, avant la présidentielle de 2022. Les échanges entre les différents responsables de l'UC, elle-même en proie à des divisions, ont aussi donné l'occasion de revenir sur la « lettre ouverte » que le président du parti indépendantiste a rendue publique le 18 mai. Dans ce courrier, Daniel Goa réclamait « le renvoi du haut-commissaire, Laurent Prévost, et de ses équipes et celui du commandant des forces armées, étriant la vision jacobine de l'État, accusé d'avoir été un interlocuteur partisan et déloyal pendant la crise sanitaire. Cette dernière a ravivé les crispations entre les différents partenaires du processus de décolonisation, sur fond de partage des compétences. Pour le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, le FLNKS, la droite loyaliste a instrumentalisé à son profit la récente crise sanitaire, en insistant sur le fait que l'archipel n'aurait jamais pu la traverser sans l'aide de la France. Aujourd'hui, c'est le prêt de 28,5 milliards CFP, 240 millions d'euros, garanti par l'État qui fait polémique. L'État a profité de la crise du Covid-19 pour se recentraliser énormément, c'est-à-dire signer des décrets et des ordonnances qui empiètent sur les compétences de la Nouvelle-Calédonie du Congrès. Indiquait récemment à Mediapart Mathias Chauchat, professeur de droit public à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, engagé de longue date pour l'indépendance. Un avis partagé par les parlementaires centristes de « Calédonie Ensemble », pourtant eux aussi loyalistes, qui ont saisi le Conseil constitutionnel au sujet de la loi propageant l'état d'urgence sanitaire. Ce texte attribue à l'État une mission qui empiète sur l'une des compétences que la Nouvelle-Calédonie exerce elle-même depuis 60 ans, à savoir la compétence en matière de santé et de contrôle sanitaire aux frontières. Se sont indignés les députés Philippe Gomès et Philippe Dunoyer dans un communiqué co-signé avec le sénateur Gérard Poadja. Le 19 mai, à l'Assemblée nationale, les deux parlementaires ont profité des questions au gouvernement pour faire part de leurs inquiétudes à Édouard Philippe. Ce jour-là, le Premier ministre, qui s'est dit prêt à adapter les dispositions au cas particulier de la Nouvelle-Calédonie, a aussi assuré que toutes les décisions avaient été prises conjointement par le haut-commissaire et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, dirigé par le loyaliste Thierry Santa. évoquant une conjugaison des compétences plutôt qu'une concurrence des compétences, le locataire de Matignon a rappelé son attachement à la préservation des esprits des accords de Matignon et de Nouméa. Édouard Philippe sait qu'il manie là une matière hautement inflammable. Depuis plusieurs mois, et bien avant que la crise sanitaire ne s'invite dans les débats, les connaisseurs du dossier calédonien s'inquiétaient déjà sur les tensions susceptibles d'entourer le deuxième référendum. « En 2018, il n'y avait pas de thermomètre », rappelle l'un d'entre eux. Tandis que cette fois-ci, les résultats se liront forcément à l'aune de ceux enregistrés il y a 2 ans. En toute logique, les pourcentages bougeront et le ressentiment des perdants avec. La situation politique s'est d'autant plus tendue depuis novembre 2018 que les dernières élections provinciales ont bouleversé les équilibres de l'archipel. En mai 2019, les loyalistes avaient conservé de peu leur majorité, tandis que les indépendantistes gagnaient du terrain, et quelques semaines plus tard le président du Congrès de Nouvelle-Calédonie, et que les modérés étaient tout simplement balayés du paysage. Cette nouvelle donne marquait une fracture encore plus nette entre les partisans de l'indépendance et les loyalistes tenant d'une ligne dure. Une fracture que la crise sanitaire est venue renforcer en faisant ressurgir des débats anciens. Les rares cas de contamination détectés dans l'archipel, majoritairement importés, ont notamment reposé sur la table les questions migratoires, lourdes de sens dans un territoire colonisé. Avant que le trafic aérien international ne soit fermé, les dernières navettes circulant entre l'aéroport de la Tontouta et Nouméa avaient essuyé des caillassages. Plusieurs tribus Kanak avaient également installé des barrages filtrants. De part et d'autre, on s'inquiète du retour de propos ouvertement racistes parmi les militants appelés à mener campagne dans le cadre de la deuxième consultation. Tout l'enjeu des prochaines semaines sera donc de calmer les esprits, à commencer par ceux des responsables politiques qui s'accusent mutuellement d'agiter les peurs. Mais pour beaucoup, il faudra d'abord passer l'échéance du second tour des municipales, fixée comme dans l'Hexagone au 28 juin. Mediapart.